À tous, à toutes, c'est un plaisir et un honneur pour moi de ce matin vous apporter le conseil de Dieu. Quand notre pasteur m'a demandé plutôt d'apporter la parole de Dieu, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais leur apporter parce qu'il nous apporte de bonnes choses. Il me fait beaucoup de bien à moi personnellement déjà, alors je pense qu'il le fait à tout le monde. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais... Parce qu'il faut être à la hauteur là. Hein. Et une pensée a pris forme en moi, mais alors rapidement. Vous voyez, je n'ai pas attendu longtemps. Des fois, on cherche, on se place devant Dieu, on cherche, on y sait ça. Et puis, on n'est pas tranquille. Alors, on se replace devant Dieu, on cherche encore. Mais là, cette pensée, pour moi, elle a pris forme tout de suite. Et il y a un petit moment déjà, hein, parce que tu m'as demandé il y a quelques jours hein, déjà d'apporter ce message. Voilà, donc, je me fais un bonheur de pouvoir partager ce que je vais partager avec vous, ce que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. Voilà, j'aimerais ouvrir le livre des juges. Le livre des juges, chapitre 11, verset 1er. On va lire 4 versets et je vous donnerai ensuite la pensée. C'est dans le titre d'ailleurs que j'ai donné à la sono. Voilà, juges, chapitre 1er. Jephté, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephté et ils faisaient avec lui des excursions, je suis petit, mais beaucoup trop. C'est bon. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Décidément, ça peut rester comme ça.
C'est que c'est un message qui a du poids.
Il a du poids.
Voilà, gloire à Dieu. Alors l'introduction, c'est cela. Jephté, le Galaadite, était un vaillant héros. Il y a là, je pense que vous-même l'attestez, une bonne introduction pour parler de cet homme, qui pourtant, on va le voir, n'a pas été favorisé par les circonstances de la vie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si vous faites partie de cela, de dire, mais qu'est-ce que je fais ici-bas ? On va voir que Jephté aurait pu se le dire lui-même. Elle aurait pu venir tout simplement sur ses lèvres ou en tout cas dans sa pensée ou dans son cœur plus d'une fois. L'histoire de Jephté, je dis qu'elle est là tout simplement pour encourager ceux qui se sentent prisonniers des circonstances sur lesquelles justement ils n'ont aucun contrôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou peut-être vous y êtes en ce moment ? Compris dans une spirale. Et vous voyez que vous êtes entraîné toujours de plus en plus bas. Ou alors vous êtes comme bloqué, coincé. En disant, mais c'est quand que ça va s'arrêter? Le bout du tunnel, il est où? C'est quand que je vais enfin pouvoir voir le jour? Eh bien, c'était un petit peu la vie de Jephté pendant pas mal de temps. Alors Dieu peut utiliser également, et je souhaite le souligner, ce que justement l'homme élimine et ce que l'homme laisse de côté ou la société. Dieu, lui, ne voit pas comme nous voyons. Il a un regard bien plus profond. Amen. Plus juste aussi. Alléluia. Alors Dieu voit dans l'être humain, bien sûr, le potentiel qui peut échapper aux yeux humains. Il aime ceux qui ne sont aimés de personne. Peut-être quelqu'un ce matin au milieu de nous dit « mais personne m'aime ». Personne même. Alors moi je dis c'est une erreur. Parce que Dieu t'aime. Amen. Si autour de toi personne ne t'aime, si autour de toi tu sens que, eh bien, il n'y a aucun regard de compassion pour toi, Dieu lui a un regard de compassion pour toi. Non, il ne t'a pas oublié, il n'a pas détourné ses regards de toi. Non. Il te regarde droit, en face. Et il te dit je t'aime. J'ai la solution pour toi. Je sais ce que je vais faire de toi. Voyez-vous, à l'heure de crise de sa nation, Jephté, le rejeté, hein, fut celui justement auprès de qui les hommes ont cherché le secours. On va voir. Je vais le détailler tout à l'heure. C'est particulier. Alors, premièrement, il y a chez lui une origine tragique. Nous l'avons lu dans l'introduction, il était fils d'une prostituée. Son père était Galaad. Et lui, qu'est-ce qu'il y pouvait ? Moi, j'ai entendu des gens me dire, moi, j'ai pas demandé à venir au monde, moi. C'est la faute à. Dans lui, il ne pouvait rien. Il n'était responsable de rien. Il était là. Parce qu'il y a eu un moment d'amour entre un homme et une femme. Alors il a commencé sa vie avec un lourd fardeau. Et on va voir que sa situation avec l'âge, eh bien, n'a fait qu'empirer. C'est devenu de plus en plus lourd, de plus en plus difficile. Comme si des nuages s'amoncelaient au fur et à mesure au-dessus de sa tête. Alors il n'avait rien pour être un héros, rien pour être un leader ou un chef. Il était ce qu'on appellerait aujourd'hui un perdant. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un gars pareil ? Eh oui. Cependant, je note ceci, c'est que le Saint-Esprit a fait en sorte que le nom de Jephté soit repris dans la liste des hommes de foi du Nouveau Testament. Je prends Hébreux chapitre 1, verset 32. Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, formèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. Parmi les grands, hein, les héros, et ceux que nous admirons, nous, pour leur foi, leur teneur également, Gédéon, Barak, Samson, Jephté. Jephté fait partie de ces grands. David, Samuel, les prophètes dont on était les noms, mais on sait que ça a été des hommes de foi. Alors l'auteur de ce texte savait qu'il y avait trop de noms pour les énumérer tous, rendez compte, et il n'en mentionne que 6. Le nom de Jephté est cité avec des héros extraordinaires. Hein? Est-ce que la vie de David vous impressionne ? Quelquefois, elle vous sert. En disant, je ne vais pas me laisser abattre, même si tous les Saül sont contre moi, je vais me redresser. Hein, s'il me faut rentrer la tête dans l'épaule un temps, mais je vais me confier à l'Éternel. Amen. Et puis, il y a Samuel. Samuel aussi, ce n'est pas facile. Lui, il vient au monde alors qu'il y a un désastre spirituel. Mais Dieu va se servir de ce petit enfant qui va grandir, bien sûr, et devenir, mais quel homme, un homme de réveil. Amen. Et puis Samson avec tous ses travers. Hein. Eh oui, il aimait les femmes. Eh oui. Mais c'est à la fin, quand même, il finit bien. Hein. Même s'il finit aveugle. Vous savez, un jour, mon pasteur a dit à une femme qui discutait toujours la parole de Dieu. Elle devait s'engager, elle le savait, et puis elle prenait son temps, et puis elle discutait toujours. Et elle a dit, écoutez, si un jour vous devez perdre un bras, vous perdez le bras, vous le perdrez, mais Dieu vous veut. Si vous perdez les deux, vous perdez les deux. Si vous perdez les jambes, vous perdez les jambes, vous serez la femme tronc, mais vous entrerez dans le salut comme ça. Et un jour, vous savez, on a baptisé un homme qui était un moqueur invétéré. Sa femme était une croyante, engagée, femme de foi, formidable. Mais lui se moquait d'elle. Et puis un jour Dieu s'est occupé de lui. Tel point qu'il a failli mourir. Lui qui se moquait du pasteur quand il venait visiter sa femme, sur ce lit d'hôpital, a dit, demande au pasteur de venir. Demande-lui de venir, je veux lui parler. Alors, sa femme était étonnée. Elle savait qu'il n'était pas bien, qu'il a failli y passer, que les médecins lui ont donné peu d'espoir. Et alors, elle a appelé le pasteur, et le pasteur est allé le voir, à l'hôpital. Et là, il a parlé avec lui. C'est plutôt cet homme qui a parlé avec lui. Et il lui a dit, voilà, je sais que je suis perdu. Je suis un moqueur. Pendant que j'étais dans ce coma, j'ai vu toute ma vie défiler. Et tout me montrait que j'étais perdu, que j'allais en enfer. Ma femme a raison. Je veux être comme elle. Amen. Et il s'est tourné vers Dieu. On l'a baptisé, comment ? Parce qu'il est devenu tétraplégique. Hein, il n'avait plus l'usage de ses mains, ni de ses bras, ni de ses jambes. On l'a porté dans le baptistère. On l'a descendu dans l'eau. Il a confessé le nom de Jésus. Il s'est tourné vers lui. Voyez, c'est sérieux l'œuvre de Dieu. Amen. C'est quelque chose d'important. Alléluia. Alors le premier verset de notre introduction, Juges chapitre 11, verset 1er, le présente comme un vaillant héros. Jephté le Galadite était un vaillant héros. Ça suggère quoi? Qu'il s'est passé quelque chose. Puisque ce perdant, celui qui est venu avec des nuages très lourds au-dessus de sa vie lorsqu'il est venu au monde, eh bien montre que quelque part il s'est passé quelque chose. Ça suggère qu'en grandissant, malgré ce lourd fardeau et qu'il traînait avec lui, malgré cette réputation ou ce qu'on pouvait dire de lui, il a su se faire une réputation pour qu'on change complètement et qu'on dise « ça c'est un vaillant héros, ça c'est quelqu'un, alléluia ». Qu'est-ce qui s'est passé? Certainement qu'il a participé à des actes de bravoure, il n'a pas été le dernier sur les champs de bataille hein, pour défendre son peuple, défendre eh bien, sa famille, je ne sais. Mais en tout cas, il a dû quelque part être là et pas le dernier. Cependant, il faut le souligner, c'est que le nuage suspendu au-dessus de lui, à cause des circonstances de sa naissance, ne se sont pas dissipés facilement. Ils étaient toujours là. Sa mère était une prostituée. Probablement qu'elle n'était pas israélite, comme toutes les prostituées en ce temps-là. Ça voulait dire tout simplement que Jephté, eh bien, n'était pas un hébreu pur sang. Eh oui. Et cela s'ajoutait aux tensions qui continuaient à s'élever dans ses relations avec ses proches et sa famille. Je pense que les repas ne devaient pas être très joyeux. Ça devait être pesant et lourd. Il n'empêche qu'il devait manger à la table de papa. Eh oui. De plus, les enfants de prostituées étaient eh bien, traités tout simplement comme des proscrits sociaux. Eh oui. Selon le livre de Deutéronome, au chapitre 23, verset 2, hein, ils étaient excommuniés des bénédictions d'Israël. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Wow. Vous vous rendez compte? Ce qu'on devait lui dire en passant? Fais ce que tu veux, mais tu ne crois rien. Tu dis rien. Pour moi, tu dis rien. Tu vois rien. Alors Galaad, son père, le principal responsable de la situation, la situation de son fils, c'est lui qui l'a voulu finalement, hein, qui l'a provoqué. On en parle peu. La seule chose positive qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il a assumé sa responsabilité en ce qui concerne eh bien, l'éducation de son fils. Il l'a gardé également dans sa maison. Il aurait pu l'ignorer totalement. Ça aurait rajouté encore un peu plus. Alors, je dis que c'est important qu'il se soit occupé de son éducation et surtout qu'il soit resté dans sa maison. C'est, je le crois, ce qui va conditionner tout le restant de sa vie. Je le crois. C'est dans la maison de son père, avec l'éducation israélite, qu'il va apprendre à connaître l'Éternel. Amen. Il est parmi le peuple d'Israël. Il est parmi le peuple de Dieu. Il est dans la maison. Amen. Et c'est important pour nos enfants de nous voir. Et eux nous voient, pardon. Amen. Que nous ayons le comportement adéquat. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai besoin de démontrer d'une manière pratique que je suis un vrai enfant de Dieu. Pas simplement le dimanche ou quand je viens aux réunions. Mais je suis un enfant de Dieu tous les jours. Amen. Je dois, c'est ma responsabilité, donner envie à ceux qui sont autour de moi de tourner les regards vers le Seigneur. Amen. De rechercher tout simplement cette présence bénie, celle du Dieu de la vie, celle de Jésus. Amen. Il va apprendre à craindre l'Éternel. Vous savez, ce n'est pas la peur qui nous terrorise, mais la Bible parle d'un saint respect. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Il va apprendre à aimer le Dieu d'éternité. Et c'est cette connaissance, cette relation avec Dieu qui va lui permettre de s'élever au-dessus des circonstances de la vie et qui fera de lui un vainqueur et un héros, un vrai leader. Amen. Un modèle. C'est important. La deuxième chose, c'est qu'il est chassé de chez lui. Le verbe chasser indique que l'expulsion, parce que je la nomme comme cela, de Jephté a été faite brutalement par des hommes sans cœur. Et oui, leur seul intérêt à eux, c'était qu'ils ne devaient pas partager l'héritage avec lui. Ils ont dû lui dire en grandissant, « Toi, tu n'auras rien. Quand papa sera plus là, tu vas voir ce qu'on va faire. » Là, papa n'était plus là, il était mort. Maintenant, eux ont fait ce qu'ils avaient dans le cœur. Amen. La Bible nous montre que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Hein, c'est 1 Timothée chapitre 6, verset 10. « Combien de familles ont été divisées à cause d'un héritage ?» Ça vous parle sans doute ce matin. Oui. Combien de fois l'argent a rempli de haine le cœur humain, n'a pas du gain. Je ne parle pas de tout ce qui l'entoure. Mais c'est terrible. C'est terrible des familles qui sont retrouvées complètement disloquées parce que justement, il était question d'argent, d'héritage. Terrible. Jephté s'est réfugié dans le pays de Tob. Chassé, il n'y restait plus rien. Hein? Il va se réfugier dans un territoire non israélite, c'est au nord de Galaad. Hein. Un pays qui fournira à une autre époque des troupes, 12 000 hommes, pour aider les Ammonites à combattre contre Israël. Vous vous rendez compte? Il va dans ce pays. Tob semble un endroit étrange, on se demande d'ailleurs pourquoi Jephté s'y installe, mais avait-il le choix? Et vous savez, des fois, on porte un jugement facile. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ça vous est pas arrivé? Et après, de connaître les circonstances, de dire, oh pardon. Pourquoi il faut, allez, avoir dans le cœur des sentiments profonds, de respect, d'amour véritable, parce qu'on a vite fait de basculer, de porter un jugement sur quelqu'un, sur une situation, sur quelque chose, quand justement on n'a pas les tenants, les aboutissants. C'est important. Parce qu'après, c'est galère, excusez-moi. Hein. C'est galère. Et oui, on n'est pas bien. Et puis, vous savez, quand on a réussi à aller au-delà, l'adversaire, lui, se régale à en rajouter. Alors, je dois voir mon frère comme étant au-dessus de moi. C'est ce que me dit l'Écriture. Hein. Amen. Alors souvenons-nous une chose, c'est que lui, quand il a été chassé de la maison, hein, il a été chassé, je ne pense pas qu'on lui a dit, allez, tiens, prends ça, attache, et si t'as froid, tiens une couverture en plus. Rien du tout. Rien du tout. Mais c'est dans ce pays, justement, qu'il va se faire une réputation. Le verset 3 nous dit, des gens de rien se rallièrent à lui. C'est quoi, des mercenaires? Des hommes violents, téméraires, qui vivaient en marge de zones peuplées, hein, de choses respectueuses. Ouais. Peut-être qu'eux aussi, justement, avaient eu le même problème, je ne sais pas. Parce que là aussi, on a vite fait de porter un jugement. Hein. En tout cas, leur seul moyen de survie était de faire des raids. Hein. Ils arrivaient comme cela dans des zones, et puis ils envahissaient, hein, ils faisaient une razzia, comme on dit, hein, parce qu'ils avaient besoin de se nourrir, besoin de manger. Hein. Et Jephté est devenu leur chef. Vous vous rendez compte? Eh oui. Il y a une similitude avec l'histoire de David. Parce qu'on peut dire Jephté, c'est Jephté, hein, avec son passif. Hein. David. David qui est devenu roi en Israël. Hein. 1 Samuel 22, verset 1er. David partit de là, se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. David, avec les promesses qui étaient sur lui. Oui, mais à un moment donné, il a dû fuir. Hein. Souvenez-nous que Saül, il ne l'a pas laissé tranquille. Hein. Lui, s'il avait pu le raccourcir, hein, il l'aurait fait il y a longtemps. Hein. Heureusement que Dieu veillait sur lui. Hein. Amen. Ah, vous savez, quand vous voyez une personne dans une situation pareille, ce n'est pas le moment de dire, mais certainement que Dieu est contre lui. Parce que, est-ce que Dieu était contre David? Est-ce que Dieu était contre Jephté? Vous voyez, quand des situations difficiles s'accumulent les unes sur les autres, d'accuser quelqu'un, de dire « Oh là là, j'ai entendu, c'est pour ça que je le dis. » Ben avec ce qu'il a fait, certainement que Dieu s'occupe de lui en ce moment. Et non, mes amis. Et non. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas. Il y a des conséquences quand on pêche. Quand on triche, quand on ment, quand on fait des choses qui sont justement eh bien, en horreur aux yeux de Dieu. On récolte ce qu'on a semé. Mais eux n'y étaient pour rien. Hein. Lorsque David dut fuir devant Saül, il s'est retrouvé dans cette caverne, Adullam. Des hommes de rien se sont joignus à lui. Et là, il est devenu leur chef. Amen. Et on connaît l'histoire de David. Pour dire, ah ben oui, il pouvait devenir qu'un chef. Avec les promesses qui étaient sur lui, la main de Dieu qui était sur lui, etc. Ah oui, l'histoire se répète. Le monde évolue, mais les mentalités demeurent. Combien n'apprennent rien de leurs échecs, ou de leurs faillites, de leurs naufrages. Il faut apprendre, mes amis. Un homme de Dieu me disait, c'était un collègue pasteur qui a été mon président de formation, il me disait, tu sais Bernard, avec ce que j'ai fait, c'est simple. Je fais un nœud à mon mouchoir, je le gardais dans ma poche, et quand je touchais mon mouchoir, je lui dis, n'oublie pas, avant de porter un jugement, ce que tu as fait toi. Ça peut partout apporter un sourire, hein, mais un nœud à son mouchoir. Mais je ne voulais plus oublier ce que j'avais fait, c'était trop honteux. Dieu m'a pardonné, je me suis repenti. Amen. Oui, c'est important. Hein. Alors pour en revenir à notre histoire, le fait qu'ils étaient attirés par Jephté indique qu'ils possédaient sans doute de réelles qualités de leader. Qualité que des hommes remplis de rancœur et de méchanceté n'ont pas pu voir, ils n'ont pas su le voir. Et ils étaient empêchés. Voyez ? Parce qu'ils n'étaient pas honnêtes finalement. Ils n'étaient pas honnêtes, hein ? Issus du même père, hein ? Eh oui. Alors cet homme qui perdit sa patrie, tout ce qui pouvait le sécuriser, va se révéler être un homme plein de ressources. Vous voyez, le perdant, le laissé pour compte, le rebut de la société, capable de faire de choses que lui-même sans doute n'imaginait pas, ne s'en sentait pas capable, bien sûr. Vous savez que Dieu parfois permet de telles situations qui nous paraissent au premier abord négatives. Mais c'est dans le but justement de nous révéler toutes ces qualités qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Amen. Sans ces situations-là, eh bien, on ne soupçonnerait pas de quoi on est capable. Eh oui. Parce que souvent, nous nous laissons porter, nous vivons sous la quille, hein, n'allons pas plus loin. Des fois même, on vit en position d'assister, en disant, ben, tu sais, il le fera lui à côté de moi. Hein. Eh oui. Ah, je sais que je peux compter sur lui. Mais Seigneur, il compte d'abord sur toi. Vous croyez pas? Alors, il est vrai que toutes les activités de Jephté n'étaient pas louables, non. Que son entourage n'est pas un aimant très respectable de la société d'alors. Mais c'est là que Dieu le préparait pour être un sauveur. Vous vous rendez compte? Pour sauver son peuple. Celui-là même qu'il avait rejeté. Et c'est à Tob, cet endroit étrange, que Dieu le voulait. Savez-vous ce que signifie Tob? B-O-N. Ça signifie bon. Ah, on tombe de haut là. Hein Tob, bon. Jephté, ça signifie ouvrir, libérer. Et finalement, comme son nom l'indique, c'est le troisième point, il est appelé à servir. Alléluia. Est-ce que nous sommes sauvés nous aussi pour servir? Est-ce que nous sommes sauvés simplement pour occuper une place dans la maison de l'Éternel? Nous sommes sauvés, notre vocation c'est de servir les projets de Dieu. Amen. C'est de servir le Seigneur là où il nous place, là où il nous envoie. Et certainement que tu es dans une situation difficile en ce moment en disant, mais comment puis-je servir le Seigneur dans cette situation? Et si, on va le voir de quelle manière Jephté a pu être un sauveur, un serviteur. On va le voir. Il a eu les bonnes réactions. Il a agi comme Dieu le voulait. Ce qui fait qu'on va le voir, Dieu était avec lui. Et si nous voulons que Dieu soit avec nous, et si tu veux que Dieu soit avec toi, Eh bien, il faut avoir les bonnes réactions. Il y a des principes bibliques immuables. On ne peut pas dire ça c'est pour l'autre. C'était pour notre époque. Non. Un jour, il y a une sœur qui a ramené à son pasteur la Bible qui lui avait été offerte. Elle avait fait un paquet. C'était la période de Noël. Elle avait fait un paquet cadeau, hein, oui, avec un ruban et tout ce que vous voulez. C'était magnifique. Alors, il était content quand elle va le voir. Elle a pris rendez-vous avec lui. Donc, elle arrive. Puis, elle lui dit, tiens, j'ai ça pour toi. Alors, il déplie, oui, il l'ouvre. Et puis, il s'est retrouvé avec les deux cartons. Vous savez, la couverture de la Bible. Quelques pages à l'intérieur, mais pas grand-chose. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et bien, elle a dit, écoute, ça, c'est ce qui me reste depuis que je t'écoute prêcher. Tu m'as dit que ça, c'était pour une autre époque. Bah, arrivé chez moi, j'ai enlevé la page. Hein. Tout ce qui concernait cette époque-là, je l'ai enlevé. Hein. Et tu me dis que ça, c'était du passé, que c'était plus en vigueur en ce moment. Ok, hop, j'enlève. Et voilà ce qui m'en reste. Il y a quelques pages. La couverture, elle est là, intacte, mais le reste, à l'intérieur, il ne reste plus grand-chose. Elle lui a dit, écoute, moi, je ne peux plus rester avec toi. Parce que je crois que la Bible est une. Qu'elle est la révélation de Dieu. Et je veux la vivre entièrement. Que Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais qu'il est un Dieu d'aujourd'hui. Et que sa parole est pour moi aujourd'hui. Donc moi, je veux la vivre. Elle dit, écoute, je suis désolé pour toi, mais moi, je m'en vais. Amen. Alors, il t'appelait à se servir. Et je dis que c'est à ce moment-là que se révèle la vraie nature de Jephthé. Celle que les hommes ne connaissaient pas, mais que Dieu, lui, connaissait. Il l'avait vu, il avait même permis qu'elle se développe. Ah, il a pris des coups, Jephthé. Mais il a su rester tout simplement dans les mains de Dieu. Vous savez, souvent ces choses se produisent à notre insu, on ne sait pas pourquoi. On est confronté à des situations imprévues, nous agissons, nous sommes surpris de la manière dont nous avons agi en disant oh, « Je suis étonné, jamais j'aurais pu. J'aurais pu penser seulement que j'étais capable de faire ça. » Eh oui. Une crise survint pour Israël avec la menace des Ammonites. C'est face à la difficulté qu'ils vont, eux, se souvenir de Jephthé. Certainement qu'ils avaient entendu parler des exploits de celui qu'ils avaient chassé. Hein, certains devaient jeter une oreille quand on parlait de Jephthé, là au coin de la rue. Tu sais, Jephthé avec toute l'équipe sont passés là-bas. Si tu savais tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est qu'il y a du monde avec lui. Ceux qui sont avec lui, mais ils disent que du bien de lui. Il apprécie formidablement. En disant que c'est un gars extraordinaire. Comment, Jephthé? Mais oui. Vous savez, c'est face à la difficulté, hein. Que là, on se remet en question. Là, ils se sont remis en question, hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Les versets 6 et 7 nous montrent le moment où Jephthé va s'élever au-dessus des circonstances, du passé, du mal qu'on a pu lui faire, etc. D'ailleurs, on va remarquer qu'il n'y a aucune haine, aucune amertume dans son cœur, dans ses paroles. Simplement un rappel de ce temps, hein, je lis, de l'étonnement pour lui. Hein, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous maintenant à moi que vous êtes dans la détresse? Pourquoi? Étonnement. Vous les grands là. Vous qui m'avez quelque part déglingué, excusez-moi, mais voilà, vous avez besoin de moi. Eh oui. Alors aucun esprit de vengeance. Pourtant à ce moment-là, les rôles étaient inversés. Non? Eh oui. Lui était en position de force et eux dans le besoin. L'orgueil a disparu, disais-je, et c'est cela au verset 6. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Viens, tu seras notre chef. Oh, le discours, il n'est pas le même, hein. Allez, toi, excusez-moi, mais casse-toi de là. Eh oui. Il vient de supplier au verset 8. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad, y compris tes frères. C'est ça que ça veut dire. Vous vous rendez compte? Et là, j'en connais, et qui se serait dressé, serait monté sur un piédestal, et qui aurait commencé à donner des ordres ou à crier. ou injurié. Lui, rien du tout. Nous voyons que cet homme aimait Dieu. Non seulement en sachant s'élever au-dessus des circonstances, parce qu'il ne s'était pas laissé écraser ni broyer pendant qu'on le rejetait, pendant qu'on le martyrisait, qu'on le persécutait. Mais il va également mettre Dieu à la première place. Au verset 9, Jephté répondit aux anciens de Galaad. « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les lie devant moi, je serai votre Dieu. » Amen. Votre chef, pardon, pas votre Dieu. Qui avait rectifié? Tout le monde n'a pas rectifié. Je serai votre chef. Amen. Il a accepté de commander. Il a accepté d'être leur chef, mais pour lui, le vrai libérateur, c'était l'Éternel. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on sert Dieu, on sait qu'on ne peut dépendre que de lui. Amen. Quand Dieu nous donne de la réussite dans la mission qu'il nous a confiée, mais l'honneur lui en revient à lui. Amen. C'est important, hein? Il faut savoir rester à sa place. Alors, c'était vraiment un homme craignant Dieu. Et le résultat d'une telle attitude de cœur, c'est qu'il est rendu capable par Dieu. Le verset 29 nous dit que l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Alléluia. Savez qu'il vaut mieux que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Si l'Esprit de Dieu est absent de nos vies, c'est pas la même histoire. Hein. Il y en a qui se sont cassés le nez, hein, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu, que sais-je encore. Hein. Alors, il faut que Dieu soit présent, qu'il soit dans la partie, que ce soit lui qui dise « Top, c'est le moment, vas-y, c'est à toi maintenant. » Amen. Par sa simple force ou par ses capacités humaines, il n'aurait pu vaincre les Ammonites. Eux-mêmes n'y étaient pas parvenus puisqu'ils venaient le voir, le supplier. Vous savez, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné à Jephté l'habileté, la sagesse dans le combat, dans la bataille. Amen. Il va accomplir ce qui n'aurait pas été possible humainement parlant. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Amen. Prenez pas de la hauteur quand Dieu vous donne de la réussite. Restez tout petit. Amen. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Eh oui, c'est Dieu. Verset 33 nous décrit l'étendue de la défaite d'Ammon. Il leur fit éprouver une très grande défaite. Depuis Aroer jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Abel-Keramim, et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Ça, c'est une victoire. Amen. Ce n'est pas une semi-victoire parce qu'on a mis son grain de sel, mais c'est parce qu'on s'en est remis pleinement à l'Éternel. Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui, justement, eh bien, aimait le Seigneur. Qui avait choisi, tout simplement, eh bien, ne pas aller ou se défendre, ou allez, je vais me venger, mais qui a su rester à sa place. Amen. Au fait, et j'aimerais terminer par là, il n'est plus question des frères de Jephté. Hein? Dans la bataille, on n'entend pas parler de ces super-héros. On ne dit plus rien d'eux. Voyez? Comme quoi il est important d'être droit, d'être un homme ou une femme de Dieu, mais dans le vrai sens du terme. Ce que je dis, je le démontre, je le vis. Amen. Et oui. Par contre, celui qu'on appelait le perdant, celui qu'on a chassé, eh bien, il devient un héros en Israël. Il devient même un juge. Vous vous rendez compte? Eh oui. L'homme de Dieu. Simplement parce qu'il a su s'élever au-dessus des circonstances de la vie. Je ne sais pas quelles sont tes circonstances en ce moment. Dieu le sait, c'est suffisant. Je sais une chose, c'est que Dieu ne parle pas en vain. Il parle pour notre bien. Alors dis-toi une chose, c'est que Dieu veut le meilleur pour toi. Ce que te proposent les hommes, la société, mets-le de côté. Tourne les regards vers l'Éternel. La Bible nous dit qu'on n'est pas couvert de honte quand on tourne les regards vers le Très-Haut. Quand on cherche tout simplement à faire la volonté de Dieu. Pour Jephté, Dieu l'a béni. Dieu était avec lui dans le combat face aux adversaires d'Israël. Mais aussi quand il a été chassé de chez ses frères, Dieu était avec lui. Et je pense une chose, c'est que quand celui qui avait la bénédiction de l'Éternel était dans la maison, ça devait mieux marcher dans la maison. Mais quand il a été chassé, qu'il n'était plus là, comment ça marchait ensuite dans la maison? On ne le sait pas. Mais quand il n'y a plus Dieu, quand il n'a plus la présence de Dieu, quand il n'a plus quelqu'un de droit, d'honnête, d'intègre, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est plus pareil, mes amis. C'est plus pareil, eh oui. Alors ce que je constate, c'est que Dieu a toujours été avec lui, même quand les circonstances étaient défavorables. Jephté n'a jamais crié à l'injustice, il n'a pas boudé Dieu, eh oui. Il ne s'en est jamais pris à Dieu, il n'a pas douté de Dieu. Il avait trop de respect et d'amour pour lui. Est-ce que nous avons un amour semblable, un respect semblable pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, pour le peuple de Dieu, ce que nous sommes? Amen, les uns et les autres. Je crois que c'est une leçon formidable. Hein, je n'étais pas venu pour vous donner de leçons, moi, mais c'est une leçon formidable que nous donne Jephté. Rendez compte, il fait partie des héros de la foi. Il a vaincu des armées. Il a vaincu sa propre nature à lui. Tout simplement parce qu'il est resté dans les mains de l'Éternel. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai qu'elle est là pour nous rappeler que nous avons besoin de toi à tout instant, chaque instant de notre vie. Que des situations peuvent subvenir, Seigneur, et que nous aurons besoin là aussi de savoir, Seigneur, nous élever, ne pas nous laisser broyer ni écraser. De ne pas agir humainement parlant avec nos propres forces, nos propres capacités, ni avec notre caractère qui peut être très fort à des moments. Mais nous avons besoin de toi. Merci de bénir, Seigneur, ton Église, tes enfants. Ce matin, nous sommes là devant toi, nous sommes venus pour, c'est vrai, élever ton nom, t'adorer. Et là, nous constatons une fois de plus que nous avons raison de le faire. Seigneur, merci pour ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Je te bénis maintenant. Amen. Amen. Visite ton Église, visite ton peuple, visite chaque enfant de Dieu. Fais du bien ce matin. Peut-être un ami qui est là, qui se sent comme broyé par les circonstances de la vie. Élève ton regard plus haut. Regarde au Seigneur. Demande-lui de te visiter, de faire une œuvre en toi. Et il va le faire parce qu'il t'aime. Amen. Il t'aime. Gloire à Dieu. Alléluia.